On va commencer cette rencontre. Merci de votre présence et merci de votre attention. Bienvenue à vous pour cette conversation en compagnie de Clara Dupont-Monod. Bienvenue à vous, Clara.
Bonjour, merci.
Merci beaucoup d'être là. Donc pour ce temps de conversation, je vais dire un tout petit mot de présentation de notre invitée, de Clara Dupont-Monod. Un tout petit mot du livre dont je sais que vous l'avez tous lu. Vos enseignants m'ont dit que vous aviez tous lu le livre de Clara Dupont-Monod. Donc moi, je vais faire une courte introduction, peut-être lui poser une ou deux questions pour lancer la machine. Et puis ensuite, je me tournerai vers vous, puisque cette séance, elle est avant tout destinée à vous, pour que vous puissiez poser des questions sur le livre de Clara, sur les thématiques qui en ressortent, sur l'écriture, peut-être sur le métier d'écrivain. Profitez de cette période, de cette session en compagnie d'une écrivaine pour poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Ma chère Clara, vous êtes journaliste et écrivaine. Hein. On vous a lu dans de nombreux organes de presse et notamment dans les colonnes de Marianne. Vous avez travaillé pour la radio aussi, évidemment, chroniqueuse pour la télévision. Vous travaillez également, je crois, dans l'édition. Peut-être on aura l'occasion de reparler aussi de ces différentes missions que vous avez autour du livre. Et donc écrivaine depuis la parution à la fin des années 90 d'un livre qui avait été sélectionné ici, si je ne me trompe pas. C'était en 1999, Eova Luciole. Un livre dans lequel il était d'ailleurs déjà question d'un enfant, entre guillemets, différent. On y reviendra à ces différents termes. Puisque votre livre s'adaptait, et vous le savez, mes chers amis, est un livre qui raconte la naissance, l'arrivée d'un enfant, alors on va revenir sur ces termes, inadapté dans cette famille, dans cette maison Sevenol, cette maison qui raconte, hein, on reviendra bien sûr sur l'histoire des pierres et sur la narration du livre, qui raconte l'histoire de cet enfant, qui est appelé l'enfant d'ailleurs, qui a un certain nombre de handicaps, qui est promis à une vie très brève. Et ce destin, il est raconté aussi par le regard qui est porté sur cet enfant par les autres membres de la fratrie. Un livre qui interroge donc le rapport à la différence, à la norme, qui interroge aussi, puisqu'il est beaucoup question du lieu, me semble-t-il, le rapport à la nature, le rapport à peut-être notre part animale, on y reviendra, le lien à un rapport très sensible au monde. Et puis qui interroge aussi, me semble-t-il, la façon dont on peut apprendre de la différence, la façon dont on peut finalement obtenir une richesse d'un contact avec un enfant comme celui-ci. Peut-être avant de donner la parole, une toute petite question quand même pour ce retour à Chambéry sur un endroit qui a été à vos tout débuts, où vous vous retrouvez aujourd'hui, avec, je le disais, déjà une thématique, en tout cas peut-être à l'œuvre. C'est quelque chose qui vous... habitent depuis longtemps ce sujet-là. Peut-être vous pouvez nous dire un mot de cela pour commencer.
Oui, et même c'est la troisième fois que je viens à Chambéry parce que j'étais venue pour mon premier roman qui racontait donc l'histoire d'une petite fille qui se réveille un matin avec des ailes dans le dos et ça la gratte, elle ne sait pas quoi en faire et ça la rend furieuse parce que les ailes ne lui servent même pas à voler. Elle n'arrive pas à prendre son élan avec ses ailes, donc elle court sur la plage et ça ne lui sert à rien, elle n'arrive pas à ouvrir les ailes. Donc on était déjà dans l'enfance en marge. Et ensuite, je suis revenue à Chambéry. Alors, quelle année, je ne sais plus. Mais c'était pour raconter, pour un livre qui s'appelle Nestor, et qui racontait l'histoire d'un monsieur obèse. Donc je n'ai pas que cette thématique quand même, hein, parce que j'ai écrit aussi sur le Moyen-Âge. Mais c'est parce que j'avais été très frappée un jour. J'avais pris le bus, et j'avais vu monter un monsieur dans le bus qui pesait visiblement au moins 130 kilos, et qui était très transpirant, et en fait, qui avait fait des efforts démesurés pour rentrer dans le bus et monter dedans. Et j'avais senti dans le bus une vague de méchanceté autour de lui. Et je m'étais dit, c'est vraiment l'obésité, le seul handicap que je connaisse où on reproche à la personne son handicap. En fait, dans les regards que je pouvais voir autour de ce monsieur, c'était « t'as qu'à moins manger, t'as qu'à faire un régime, et c'est de ta faute, et c'est bien fait ». Alors que ça ne viendrait pas à l'esprit de reprocher ça à quelqu'un qui ne peut pas voir ou qui ne peut pas entendre ou qui ne peut pas marcher. Et j'avais été très frappée par ça. Et du coup, j'avais écrit un texte autour d'un monsieur que j'imaginais très gros et qui s'appelait Nestor. Et c'est pour Nestor que Chambéry m'avait invité la seconde fois. Et là, me revoilà une troisième fois avec S'adapter. Donc, il y a une continuité aussi avec Chambéry.
Alors on va revenir là-dessus et puis préparez-vous, parce que je vous donne la parole tout de suite sur cette question, évidemment, ce qui se passe dans ce livre et cette fratrie et ce rapport à la famille, mais peut-être plus globalement par rapport à ce que vous venez de dire, cette thématique ou ce motif peut-être plutôt de la marge, de l'exclusion, de la différence qui est à l'œuvre aussi dans la société. Comment la société regarde finalement cette différence, comment est-ce qu'elle est traitée ou prise en charge d'une certaine manière dans la société. C'est aussi ces thématiques qui courent dans ces différents livres.
Bah oui, mais ça, il suffit de regarder autour de nous. Moi, même à Chambéry, comme à Paris, où je suis, ou ailleurs, il n'y a pas beaucoup de place qui est faite pour les gens différents. Et moi, je suis toujours étonnée quand je me dis qu'un regard, ça s'éduque, et qu'en France, il n'est pas du tout éduqué. D'où le fait que c'est important, je pense. Mais bon, je suis... Le ministère de l'Éducation nationale ne pense pas comme moi. Mais quand vous discutez avec des enfants, moi j'avais hier des primaires de Chambéry, ce matin j'en avais encore. L'enfant, il s'adapte spontanément à la différence. Quand vous mettez un quart d'enfant handicapé dans une classe, les autres, ils sont très souples. Ok, leur meilleur copain, il sera trisomique. Il est trisomique. Il y en a, on a essayé le langage des signes. On apprendra le langage des signes. Il y en a un qui ne peut pas marcher, on va se débrouiller. Et en fait, en une génération, vous pouvez changer le regard parce que ces enfants-là vont grandir. Et quand ils deviendront adultes, avec un peu de chance, s'ils doivent être, je vous dis n'importe quoi, patron ou chef d'équipe, ou en tout cas, si à un moment, ils peuvent engager, embaucher des gens différents, ils seront beaucoup plus familiers avec ça que s'ils n'avaient pas été en classe avec eux. Et donc, en fait, c'est vraiment une idée de... Très souvent, la méchanceté et la bêtise, elle vient de l'ignorance. Donc, moins on ignorera et plus on inclura. Mais ça, quand vous voyez à l'échelle européenne, la France est quand même très en retard. Dernière bon, après, je ne suis pas porte-parole des gens handicapés non plus. Hein. Faut pas, j'écris des romans, moi. Hein.
J'entends bien. Oui. Et justement, on va parler peut-être de l'écriture romanesque. Et puis ensuite, ce sera à vous. J'ai parlé de la manière dont l'enfant est dénommé. L'enfant, l'aîné, la cadette, il y a la maison, il y a le lieu, mais qui n'est pas forcément décrit en détail, peut donner des allures comme ça de fable ou de fable universelle. Peut-être pouvez-vous nous dire justement comment est-ce que le roman, la littérature, vous semble pouvoir attraper ces sujets-là, à la fois avec une dimension romanesque, peut-être de conte, et en même temps avec de l'incarnation, avec des vies individuelles, pour traiter un sujet non pas dans la masse, mais bien sûr au niveau de l'individualité. C'est sans doute une des forces de la littérature.
Alors oui, alors la question du coup,
la question
c'est...
peut-être, comment est-ce que vous envisagez le roman comme un lieu pour aborder aussi ces sujets-là ?
Mais je pense qu'il peut y avoir que le roman. En fait, moi, à la base, c'était pas un livre du tout sur le handicap, ou c'est un livre sur la fratrie. Parce que je trouve que la fratrie, c'est un thème littéraire qui est assez peu exploité. On a beaucoup de choses, des enfants qui racontent les parents, des parents qui racontent les enfants, mais on a assez peu de choses sur le principe de la fratrie. Et moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est que la fratrie, quand vous discutez avec des gens qui ont des frères et des sœurs, très souvent, un seul et même événement n'a pas été vécu de la même façon selon la place que vous occupez dans la fratrie. Vous les entendez, l'aîné il dit mais non mais pas du tout, ça s'est pas passé comme ça, et le petit dernier il dit mais si, ça s'est passé comme ça, alors qu'en fait on parle de la même chose. Et en fait, selon la place que vous avez dans la fratrie, ça veut dire un lien aux parents qui est pas le même, un lien avec toutes sortes de choses qui fait qu'en fait vous pouvez ne pas avoir vécu le même événement pourtant qui va être identique. Et ça, pour un romancier, c'est génial. Alors après, moi, il se trouve que j'adore la fratrie, j'adore ma fratrie, donc c'était une façon aussi de leur rendre un peu hommage. Mais je trouve que dans la vie, on est programmé pour quitter nos parents. Nos enfants, que vous ferez peut-être, ils seront programmés pour vous quitter. Bah, les frères et sœurs, ils ne vous quittent pas. C'est quand même pas mal. Ils marchent à côté de vous. Ils sont tout le temps là. Et là, il y a un lien que je trouve hyper beau. Et je ne comprends pas pourquoi la littérature n'exploite pas plus la fratrie, qui pour moi est vraiment un thème très très beau.
Je me tourne vers vous. Qui est-ce qui veut avoir le courage et l'honneur de poser la première question à Clara Dupont-Monod ? Oui, jeune homme.
Il est où le jeune homme ?
Attendez, juste une seconde, on va te passer le micro. Et je vous demande, s'il vous plaît, de respecter ceux qui prennent la parole. Merci beaucoup.
Comment vous est venue l'idée de raconter l'histoire depuis le point de vue des pierres ?
Euh, Alors, en fait, dans cette histoire, il y a un socle autobiographique qui est que dans ma famille, nous avons eu un enfant handicapé qui a le même handicap que l'enfant du livre et qui est mort quand il avait une dizaine d'années. Et c'est quelque chose qui m'a tellement enrichi et rendu moins bête. J'ai adoré, moi, être au contact de cet enfant. J'en ai pas du tout fait un chagrin. Mais vraiment, moi, je comprends pas qu'on puisse... à nouveau, que la société écarte à ce point ces enfants qui sont différents, parce qu'ils nous obligent à sortir de notre zone de confort et à nous mettre à la hauteur de quelqu'un d'autre avec la lumière, avec le bruit, qui voit pas de la même façon que nous. Et j'ai adoré vivre ça. Et donc, j'avais envie d'écrire autour de ça, mais vraiment autour de la fratrie. Et le fait que les pierres, ce soit un mur de pierre, pour moi, c'est comme les frères et sœurs, un mur de pierre. C'est-à-dire que les pierres, elles se soutiennent les unes les autres. Et le mur, il peut tomber, mais on le reconstruit. Et pour moi, c'est la fratrie, c'est comme un mur de pierre. Par ailleurs, ma famille vient des Cévennes, où se passe le roman. Donc moi, j'ai grandi parmi les pierres. Donc c'est pas si étonnant qu'à un moment, je leur donne la parole.
Merci pour ta question. Une autre question ? On t'écoute.
Pourquoi ne pas avoir donné des prénoms aux personnages ?
Parce que je voulais donner quelque chose de l'ordre du conte au récit. Et quand vous regardez les contes, on n'a pas le lieu. La forêt du Petit Pousset, on ne sait pas où c'est. Le château de Cendrillon, on ne sait pas où c'est. Et j'aime bien cette idée d'avoir une page blanche assez universelle, comme le conte. Et comme l'action racontait quelque chose de très singulier, l'arrivée d'un enfant handicapé dans une famille, ce n'est pas une histoire d'amour qui commence et qui termine, comme on peut voir souvent dans la littérature. Donc il y a quelque chose de très singulier. Il y a une singularité aussi de géographie, parce qu'on est quand même dans les Cévennes, qui est particulier. Il y a une singularité aussi du point de vue. Il y a trois points de vue avec les pierres. Donc il y avait tellement de singularités qu'il fallait contrebalancer par quelque chose de beaucoup plus universel, de beaucoup plus page blanche. Et ne pas donner de prénom me permettait de viser quelque chose de plus haut que la singularité.
Merci pour ta question. Question suivante. Oui, on t'écoute. Tu veux bien te lever, voilà, super, merci.
Avez-vous connu ou connaissez-vous une expérience liée aux handicaps ?
Ben oui, parce que je vous dis, j'ai eu mon frère qui est né comme ça. Enfin, c'était ma réponse avant au tout début.
Peut-être une question pour avancer un petit peu. Oui, au fond, visiblement, il y a une question. Ah.
Comment expliquez-vous le succès de votre roman ?
Ah bah c'est à vous qu'il faut le demander, j'en sais rien. Je pense que s'adapter, c'est quelque chose qu'on fait tous. Enfin, j'en sais rien en fait. on ne peut pas expliquer. Enfin, c'est tellement acquis tout double. Quand vous faites un texte comme ça, vous ne savez pas du tout si ça va rencontrer un écho. Donc c'est la bonne surprise en fait. Peut-être que le fait de s'adapter, ça veut dire faire avec et pas faire contre. Et ça, on est tous obligés de le faire au moins une fois. Donc peut-être que c'est ça, que c'est une forme d'expérience universelle. Avec le Covid, on a tous été obligés de s'adapter, par exemple. Finalement, il a fallu faire avec et pas faire contre. Les masques, on savait pas ce que c'était il y a encore 2 ans. Le confinement encore moins. Donc peut-être que voilà, j'imagine.
Vous diriez donc que s'adapter, c'est faire avec et pas faire contre dans le cas de cette fratrie notamment et de la famille.
Ça. S'adapter, c'est faire avec. En fait, ce que les enfants vont devoir apprendre en accéléré, c'est à faire avec et pas faire contre. Et ça a l'air de rien, mais c'est hyper difficile. Quand quelque chose vous arrive et que ce n'était pas prévu et que par ailleurs, ce n'est pas conforme à vos désirs, c'est très compliqué de faire avec et pas faire contre. Après, il y avait un autre paramètre que moi, je trouve intéressant, c'est que ces trois enfants... ils vont devoir s'adapter à leur petit frère. Mais s'il faut s'adapter à l'inadapté, c'est qui le plus inadapté ? à ce moment-là, c'est les trois normaux qui sont presque autant handicapés, entre guillemets, que l'enfant. Donc ça remet aussi en question la norme.
Oui. Je t'en prie, tu prends le micro, voilà, très bien.
C'est bon. Combien de temps vous a-t-il fallu pour écrire l'histoire ?
3 ans. Oui, mais le livre, c'est du temps long. Hein. Un livre, c'est long. Mais c'est ça qui est bien.
Peut-être pouvez-vous préciser s'il y a des phases ou est-ce qu'il y a un temps où on jette des idées sans avoir forcément la narration en route ? Peut-être pouvez-vous découper un tout petit peu ce temps de travail pour leur expliquer un peu le processus.
En fait, ça dépend des livres. Quand j'écris sur le Moyen-Âge, c'est très difficile de faire quelque chose qui s'est passé au Moyen-Âge, de le raconter à des lecteurs du XXIe siècle. Donc ça, il y a tout un travail qui est très long où on essaie de rendre accessible une période qui n'est plus là. Alors que là, ça se passe quasiment dans notre modernité. Ben là, il y avait quelque chose de très instinctif, de très joyeux. Moi, j'ai adoré retranscrire le bruit de l'eau, le vent, le soleil, la respiration de l'enfant. C'était à la fois très doux et très heureux. Et alors après, mais ça, c'est valable pour tous les écrivains, il faut accepter de passer 3 semaines sur une phrase parce qu'elle ne correspond pas à ce que vous voulez faire passer, parce qu'il n'y a pas le bon mot, parce que vous cherchez la bonne tournure. Donc là, oui, c'est 3 semaines de travail et de cogite. Donc là, vous n'écrivez pas, ou alors si, vous pouvez continuer à écrire et puis ça reviendra tout seul. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un travail de rigueur et d'exigence. Moi, je sais que quand j'écris un livre, je ne sais jamais comment il va se finir. Donc je n'ai pas de plan. Je ne sais pas pourquoi, à un moment, je sais que c'est le point final. À un moment, j'en ai marre aussi. J'en ai ras le bol, donc je me dis c'est fini. C'est un compagnonnage en fait. Le livre, il va vous accompagner pendant 3 ans de votre vie. Certains, c'est 10 ans. Hein. Certains, c'est encore plus longtemps même. Dans l'histoire littéraire, on a des livres qui ont pris 30 ans de la vie de quelqu'un. Donc il faut accepter. On n'est pas du tout dans le temps instantané de l'écran. C'est l'inverse. On est dans le temps long. Et moi, j'adore ça. Mais c'est lent. Mais c'est bien la lenteur aussi. Hein.
Oui. Juste, je prenais le micro, comme ça, ce sera mieux.
Merci.
Levez-vous comme ça, tout le monde vous voit. Je vais vous parler à vos collègues.
Je parle comme ça, tout le monde. Du coup, la question était, est-ce que ça vous est arrivé de laisser votre livre un petit peu au placard pendant certaines périodes, peut-être de votre vie? Ou pas du tout?
Si, ça m'arrive même régulièrement. Dans le temps de l'écriture du roman, il y a toujours un moment où, en fait, soit j'y arrive pas, soit il m'échappe, soit j'ai besoin à un moment de laisser poser comme un gâteau. Et du coup, je le travaille pas pendant plusieurs mois, même des fois plusieurs semaines. En tout cas, moi, c'est plus rare, mais plusieurs semaines. Mais c'est pas parce qu'on n'écrit pas physiquement qu'on n'écrit pas. C'est-à-dire que quand vous le laissez au placard, votre livre, vous y pensez tellement tous les jours qu'en fait, vous êtes en train de préparer le moment où vous allez vous remettre à écrire. Donc en fait, vous continuez à écrire dans votre tête. Vous voyez ? Donc c'est un truc, certes, j'écris pas physiquement parlant le soir, mais je sais que dans 3 semaines, quand je m'y remettrai, j'aurai tellement pensé à l'histoire, au personnage, que quand je vais m'y remettre, ça va sortir tout seul. Le boulot, je l'aurais fait avant.
Autre question.
D'où vous vient cette envie d'écrire ?
Je ne sais pas, mais on n'a pas envie d'écrire, en fait. On a besoin, ce qui n'est pas tout à fait pareil. On n'a pas envie d'écrire. Ce n'est pas un hobby, en fait, en tout cas pour moi. Hein. C'est quelque chose où vous ne pouvez pas ne pas le faire. C'est une nécessité. Vous ne pouvez pas ne pas le faire. Si vous ne le faites pas, vous vivrez moins bien. Donc, vous le faites. Je pense, c'est, pour moi, en tout cas, ce n'est pas un loisir. C'est quelque chose que je ne peux pas m'empêcher de faire. Donc, je ne sais pas d'où ça me vient.
Merci. Une autre question, puis je crois que là, au deuxième rang, il y avait une jeune fille qui voulait le micro également. Vas-y,
Quelle
je t'en prie.
Quelle est la meilleure gratification qu'avez-vous eue pour la publication d'un de vos romans ?
Eh ben, le Goncourt des lycéens, ça m'a beaucoup touchée, les autres prix aussi bien sûr, mais celui-là particulièrement, parce que quand moi j'écrivais, je ne savais pas du tout l'idée de la différence, de la fratrie, des Cévennes, les pierres qui parlent. Enfin franchement, il y avait quand même, mon éditeur il m'avait dit, Clara, il y a un pari là que vous faites, punaise, il n'y en a pas un, il y a trois paris quoi. Le sujet n'est pas commun, la narration n'est pas commune, l'endroit, il ne savait même pas où c'était les Cévennes, il m'a dit c'est quand même, c'est chaud quoi. Et j'ai dit bah ouais, mais il m'a dit bon, on va tenter. Et donc c'est vraiment très gratifiant, parce que moi ce qui m'a fait plaisir, c'est que les lycéens que j'ai rencontrés pour le Goncourt des lycéens, il y en a beaucoup qui m'ont dit j'ai pas du tout d'expérience de handicap autour de moi, dans mon entourage, dans ma famille, je sais pas ce que c'est. En revanche, je suis à une période de ma vie où tout change. Ma voix change, mon corps change, mes pensées changent, mes passions changent, tout change. Et il faut que je m'adapte. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, comme quoi s'adapter, il y a vraiment quelque chose d'universel en fait. Et en effet, l'adolescence, c'est l'instant des grandes adaptations. Enfin, c'est eux qui me le disaient. Et du coup, ils voyaient comment se comportait la fratrie. Comme il y a de la colère, comme il y a de l'amour fou, comme il y a un moment, une espèce de sagesse aussi du petit dernier, ils adoptaient les trois points de vue selon ce qui leur parlait le plus. Et ça, j'ai trouvé ça super.
S'adapter, c'est un verbe à l'infinitif, c'est une action aussi, c'est un processus.
Oui, et bon, alors moi, il se trouve que j'adore les titres en forme d'infinitif. Moi, j'adore ça. C'est comme les phrases, les titres en forme de phrases. Moi, j'adore ça. Et après, s'adapter, moi, j'aimais bien parce que ça s'adapte, c'est le cas de le dire, aussi bien à l'enfant qui doit quand même s'adapter à cette famille dans laquelle il arrive, mais c'est aussi aux normaux, entre guillemets, de s'adapter à cet enfant. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'à un moment, quand l'aîné comprend qu'il n'y a que Louis qui marche, et que du coup, il se retrouve à lui traduire le monde de façon sonore, uniquement avec la puissance de la voix, d'une pierre qu'il lâche sur le sol, du glougloutement du ruisseau, il s'adapte en fait. Mais même la cadette, quand elle comprend que la colère servira à rien, que c'est absurde d'en vouloir à quelque chose qui ne bougera pas de toute façon, et qu'elle convertit la colère en force constructive, c'est une façon de s'adapter. Et le petit dernier, lui, il naît avec la question « si t'étais pas mort, est-ce que moi je serais là ?» C'est quand même un vertige aussi. Et il s'adapte aussi à sa façon. Moi, j'ai adoré les écrire, les trois. Hein. J'étais hyper fière d'eux en terminant le livre. Je me suis dit « mais les trois, ils ont réussi à s'adapter finalement, à leur façon. » Mais ils l'ont fait.
Autre question ? Il fonctionne pas, il doit pas encore être branché. Prends l'autre si tu veux.
Il n'était pas allumé.
Ah voilà, parfait.
À quel âge avez-vous commencé à écrire des romans et quelles études vous avez fait ? Est-ce que vous avez fait des études littéraires en lien avec tout ça ou...
Alors moi j'ai fait des études d'ancien français, donc évidemment ça mène pas à grand chose. Parce que prof d'ancien français ça n'existe pas donc.
Ou ça mène à tout, c'est selon.
Ou ça mène à tout, voilà c'est ça. Mais moi j'étais tellement amoureuse du Moyen-Âge et j'ai trouvé ça tellement génial comme période et je trouvais ça aussi génial de me demander comment est-ce que la langue même que je suis en train de vous parler, vous la comprenez, d'où ça vient, à quel moment en fait les mots ont roulé de bouche en bouche de façon à ce que à un moment il y ait une forme définitive du mot, parce qu'au Moyen-Âge un Savoyard ne comprend pas quelqu'un qui habite au nord, qui ne comprend pas non plus un breton, qui ne comprend pas un provençal. Donc en fait, on ne se comprend pas au Moyen-Âge. Il y a des dialectes partout. Et à un moment, il y a bien quelqu'un quand même il y a bien une langue, une forme qui s'est imposée. Et c'est les mêmes mots qui roulaient de bouche en bouche et on a décidé de les fixer. Mais par exemple, au Moyen-Âge, il n'y avait pas d'assiette quand on mange à table. Donc on a des tranches de pain. Et comme le pain est très cher, on le partage avec son voisin. Et ça a donné le mot copain. Et en fait, non mais tout est comme ça au Moyen-Âge. En fait, quand on se penche sur l'ancien français, vous comprenez un milliard de choses. Moi, j'adore cette langue parce qu'en fait, c'est tous les usages aussi. Donc, copain, par exemple, il y en a plein d'autres. Et ça m'a aidé à mieux comprendre notre langue. Donc, bref, j'ai fait des études d'ancien français, donc qui ne m'ont pas servi à être prof d'ancien français. Et j'ai commencé à écrire, je sais pas, mais à vers une dizaine d'années, en fait, je faisais des poèmes. En fait, c'est vraiment un état d'esprit, c'est que c'est tout le temps avec vous. C'est comme, vous savez, ceux qui... ceux qui adorent la danse ou la musique, en fait, quand vous leur demandez de quand ça date, ils seront incapables de vous répondre parce que c'est un truc qui les a toujours accompagnés. Donc j'ai commencé, oui, très tôt. Mais en fait, j'ai surtout commencé à lire très tôt parce qu'on ne peut pas écrire si on ne lit pas. Ça, c'est sûr. Donc j'ai lu très tôt, enfin comme tout le monde, hein, en même temps. Hein.
Plus ou moins, pour certains.
Oui, mais ben, quand vous êtes gamin, on a tous des je sais pas si ça existe encore, les Martines, les Oui-Oui, tous les trucs comme ça, on les lit, non?
Enfin,
je sais
pas. Ouais, c'est vrai. Autre question, ouais.
Du coup, vous avez dit que vous lisiez beaucoup, ouais. Et quels auteurs vous aimez, vous appréciez? Enfin, en général.
Mais... Ouais. Souvent dans les médias, ils me demandent quelle est la lecture, votre premier livre lu, la lecture fondatrice, etc. Et à chaque fois, je suis frappée, il y a toujours des extraits d'écrivains, grands écrivains, qui disent à 8 ans, j'ai lu Marcel Proust, à 10 ans, j'ai lu Montaigne. Alors moi, à chaque fois, je réponds la vérité. J'ai moi, 6 ans, j'ai lu Jojo Lapin se rebiffe et ça a changé ma vie. Mais c'est vrai. Et à chaque fois, ils sont hyper déçus. Ils disent Jojo Lapin se rebiffe. Et je dis, bah ouais, je suis désolée, quoi. C'est la Bibliothèque Rose. J'avais 7 ans et j'ai halluciné de voir qu'avec des mots, on pouvait créer un monde. Mais je me rappelle encore hein, ma stupéfaction de me dire, mais avec un alphabet, en fait, on peut. Je suis au cinéma, en fait. Et j'ai trouvé ça complètement dingue. Et par la suite, alors moi, il y a un auteur que j'adore, qui est Émile Zola. J'adore cet auteur, qui, hélas, n'est pas au programme français, je crois, du bac français. S'il vient, ça c'est bien. Alors moi, après, il y a un mythe médiéval du Moyen-Âge que j'adore, qui est Tristan et Iseut, que je trouve merveilleux. Voilà. Et après, j'adore, mais alors... Maupassant, moi tout le 19e siècle j'aime bien Maupassant, Alexandre Dumas, ça vraiment moi je suis comme une gamine, j'adore ça. Alors pas trop la princesse de Clèves, hein, je crois qu'elle est aussi au programme, voilà, et on embrasse le subjonctif plus que parfait.
Et Jojo Lapin c'est toujours dans votre bibliothèque,
ouais.
En bonne place,
ouais, Bibliothèque Rose. Mais à chaque fois je vous dis, vous êtes pas déçus, ce qui est bien, parce que en général les journalistes ils sont hyper déçus, ils me disent mais pas Proust. Moi, j'ai non, surtout pas à 7 ans.
Merci pour cette question. La suivante.
Moi, je voulais savoir si vous avez des lieux ou des moments de la journée qui vous inspirent plus ou.
Alors, on vous voit pas en fait.
Est-ce que vous avez des lieux ou des moments de la journée qui vous inspirent plus ou que vous avez plus envie de raconter?
Alors, en fait, moi, j'écris surtout la nuit. Je ne sais pas pourquoi. Moi, la nuit tombe et que la ville dort, et que tout le monde dort, d'ailleurs, c'est là où moi, j'écris. J'arrive pas à écrire, enfin, pas bien dans la journée. Et ce qui est un drame, parce que comme j'ai une vie professionnelle, que j'ai un bureau, tout ça, eh ben, c'est pas très compatible. Donc, je suis fatiguée tout le temps. Mais j'ai beaucoup de mal à écrire dans la journée. Moi, c'est vraiment la nuit.
Il faut peut-être dire que beaucoup d'écrivains aujourd'hui ont un... Alors, c'est selon de là où on se place, mais un premier ou un deuxième métier, en tout cas un autre métier que celui d'écrire. Et que très souvent, l'écriture se loge aussi dans les interstices.
Oui.
C'est une réalité.
Il y en a beaucoup qui écrivent le matin très tôt. Moi, j'en connais plein qui se lèvent vraiment à 5 heures du matin et qui écrivent de 5 à 7 avant que la maison se réveille. C'est souvent le matin. Alors moi, ça, je suis incapable de ça. Je suis pas du tout du matin. J'admire, mais moi, c'est vraiment en effet entre minuit et 4 heures. Enfin, après, il faut savoir que écrire 8 heures de suite, ça, c'est très difficile. En général, on le fait pas. La concentration pour écrire un roman, c'est tellement particulier. On a 3-4 heures d'inspiration. Et après on est obligé de s'arrêter. Mais donc c'est pas 8 heures non plus de suite. Moi, les écrivains que je connais qui font ça à plein temps, ils font ça le matin très tôt et très souvent l'après-midi, ils se nourrissent autrement, mais ils écrivent pas. Mais c'est particulier, hein. C'est des gens un peu particuliers, les romanciers.
Ah oui, on peut le dire, ouais. C'est pour ça qu'on vous invite d'ailleurs.
Mais on est sympa, hein.
Une autre question.
Oui. Quelles sont, de parmi vos œuvres, laquelle
de ces œuvres vous avez écrites, quelle est la meilleure, enfin, quelle est l'œuvre que vous avez préféré écrire plutôt, pardon?
Alors aucune, parce que quand je reprends mes livres et que je les relis, je me dis que j'aurais pu faire mieux, je vois que les erreurs, donc en fait, aucun.
Voilà une lectrice rude de son propre travail.
Oui.
Est-ce qu'il y a une autre question? Visiblement, il y a une main levée à l'avant-dernier rang.
Quels sont les auteurs qui vous ont inspiré?
Oui.
Pardon. Non, mais...
Émile Zola, Tristan Iseux et Jojo Lapin.
Est-ce que, peut-être pour repréciser, autour de ce livre, y a-t-il des lectures que vous avez faites en particulier pour ce livre? Et peut-être en élargissant la question, lorsqu'on est en train d'écrire un livre, est-ce qu'il y a un système de références musicales, littéraires, des choses auxquelles on se raccroche?
Moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien me mettre... j'ai un rapport assez fort avec le lieu. Donc, par exemple, quand j'écris un texte comme S'adapter, j'ai besoin d'être... dans les Cévennes, parce que ça se passe dans les Cévennes, et donc le bruit de... C'est mon côté un peu journaliste, le bruit de l'eau, il faut vraiment que je sois dedans. Quand j'ai écrit sur le Moyen-Âge, j'ai écrit sur une reine qui s'appelle Aliénor d'Aquitaine, et Aliénor, j'ai été obligée d'aller dans sa région, là où elle est née. C'est une campagne, donc en fait, vous me direz une campagne qui ressemble à une autre, mais non, c'est sa campagne à elle. Moi, j'ai besoin de voir ce qu'elle a pu voir, même si on était au XIIe siècle. Et donc, j'ai un rapport avec le lieu qui est assez, assez particulier. Je pense plus généralement que le lieu, mais ça, j'ai essayé de le mettre dans S'adapter, je pense que le lieu fait notre identité presque plus que la famille. C'est-à-dire que je pense qu'on est d'abord l'enfant d'un lieu. Ça, j'y crois vraiment. Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas un hasard s'il y a une seule lettre de différence entre lien et lieu. Et d'ailleurs, l'expression « être un enfant du pays » dit bien ce lien organique qu'on a avec le lieu. Alors des fois, ça peut être des lieux coup de foudre, des lieux adoptés. Ce sont ces gens, des fois, quand vous discutez avec eux, qui vous disent « j'ai eu un coup de foudre pour tel endroit, je me suis installée là ». Mais je pense qu'on a tous un lien avec un lieu et qu'on est d'abord l'enfant de ce lieu. Ici, on est dans les montagnes, et ben, c'est pas comme si on était au bord de la mer. Et au bord de la mer, vous avez un état d'esprit précis. Les gens qui habitent une île, ils ont un état d'esprit précis. À un moment, le lieu façonne votre identité. Ça, j'y crois vraiment.
Et donc, le lieu, dans S'adapter,
oui,
il façonne aussi manière d'être par rapport à cet enfant.
Complètement, mais c'est comme ici, vous êtes de Chambéry, donc vous le savez, mais la montagne, ça fait partie de ces énormes éléments qui est aussi bien un ennemi qu'une amie. La montagne, il faut s'en méfier. En même temps, la montagne, on vit avec et c'est notre... compagne la plus proche. Mais très souvent, les gens qui vivent dans des régions, alors en tout cas les Cévennes, mais c'est comme les habitants du bord de mer. Il faut s'adapter à la montagne et c'est pas à la montagne qui doit s'adapter à l'homme. Ça demande une humilité de l'homme. Et les enfants qui sont habitués à cette logique géographique, pour la première fois, ils vont devoir l'appliquer à leur vie privée, leur vie familiale. Sauf que la montagne, ça va être l'enfant. Il va falloir s'adapter à lui exactement comme ils font avec la montagne. Donc, la montagne, qui est un élément énorme, et l'enfant, qui est un élément tout petit, se rejoignent dans cette même puissance de dire à leur entourage, tu t'adaptes à moi. Donc, quand on dit que les êtres différents, ils ont moins que nous, je pense qu'ils ont beaucoup plus.
Oui, et en même temps, la sensibilité à la nature est aussi en miroir avec la sensibilité, l'extrême sensorialité que doivent développer les frères et sœurs,
oui,
pour comprendre...
C'est là où la montagne devient une alliée. La montagne va les aider à comprendre l'enfant, puisqu'elle est pleine de sons et qu'il peut entendre. Le grand frère, l'aîné, il fait que ça. Quand il le pose le long de la rivière, c'est que pour lui faire entendre les sons. Donc il a vraiment... la montagne à ce moment-là est un outil, alors que la cadette, elle voit la montagne comme une ennemie. La cadette, elle trouve ça injuste que les arbres continuent à pousser, que la beauté soit aussi indifférente à son chagrin, et elle trouve ça scandaleux que la montagne continue sa route dans une espèce de suprême insensibilité à sa détresse à elle. Donc vous voyez, on peut voir les choses de façon complètement différente en fait.
Autre question, n'hésitez pas aussi à poser des questions.
Il y a une dame là, mais elle n'est pas lycéenne, mais il y a une
spontanée,
dame derrière
mais
vous.
C'est accepté quand même, hein, je crois.
Bonjour. Voilà. Justement, ces trois enfants, est-ce qu'ils sont nés en même temps sous votre plume ou est-ce qu'ils sont nés l'un après l'autre? Vous avez d'abord bouclé l'histoire de l'aîné pour la réécrire les différents points de vue.
La deuxième option, j'ai d'abord écrit l'aîné et puis après je l'ai laissé au moment où l'enfant meurt. Je suis passée à la cadette et en écrivant la cadette, je me suis aperçue qu'elle pouvait, elle grandissait et qu'elle aurait un lien avec l'aîné, même devenue adulte. Donc je suis revenue à l'aîné et j'ai écrit sa vie adulte. Voilà, il y a eu un va-et-vient comme ça.
Oui, n'hésitez pas aussi à poser des questions plus spontanément, même que vous n'auriez pas préparé avec vos enseignants, hein, suite à ce que vous entendez.
Ou même à donner votre avis aussi, ou votre senti, qu'est-ce que vous avez senti en lisant le livre. Vous pouvez aussi vous exprimer sur ces choses-là aussi.
Est-ce que vous avez été imposé des caractères de style, de l'écriture, de la narration? Est-ce que vous avez été imposé?
Alors imposé, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que ben on vous a dit bon ben vous allez devoir écrire tant de pages, vous allez écrire un
non.
roman.
Ah peut-être oui, une question sur le rôle de l'éditeur
ouais.
par contre.
Dans ces cas-là, l'éditeur, en fait non, j'avais rien d'imposé. Et l'éditeur, ce qu'il fait dans ces cas-là, c'est qu'il peut, il guide. Par exemple, je me souviens que mon éditeur, il m'a dit, au début, la première version que j'ai montrée, il m'a dit, moi, Clara, je ne sais pas où c'est les Cévennes, et vous ne décrivez pas assez. J'ai aucune idée d'à quoi ça ressemble. Donc, je me suis dit, mais il a raison. Alors, moi, j'étais tellement dedans que je ne me suis pas rendu compte. Il m'a dit aussi, moi, je suis enfant unique, je ne sais pas ce que c'est qu'une fratrie. Donc, il faut m'expliquer. Donc il faut qu'ils arrivent plus tôt les enfants. Donc j'ai changé un peu le. Et puis il y a des fois il me dit des choses, je suis pas d'accord. Donc je le retiens pas. Vous voyez, c'est un échange, une discussion qu'on a. Alors après s'adapter, j'étais tellement sûre de moi. En fait, je voulais tellement le faire exactement comme ça que je me rappelle très bien quand je lui dis bon bah vous savez c'est les pierres qui vont parler. Et il m'a dit mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. C'est comment ça les pierres parlent? Et j'ai dit bah oui c'est les pierres qui parlent. Il m'a dit, non, mais vous êtes sûr? Et bien, j'ai dit, bah oui. Donc, vous voyez, en fait, alors que les autres livres, j'étais moins sûre de moi. Les autres livres, c'était un plaisir de tâtonner avec lui, de trouver des trucs. Alors que là, c'était sûr, c'était à prendre ou à laisser. Donc, vous voyez, ça dépend des livres aussi.
Et c'est intéressant de savoir, en effet, qu'un éditeur, on lui. Enfin, j'imagine, je ne veux pas parler à votre place, l'écrivain envoie le manuscrit tel qu'il l'a travaillé, peut-être presque abouti. Et puis ensuite, il y a effectivement des remarques.
Différentes versions.
Mmh. On retravaille. Et il y a une sorte de collaboration qui n'est pas de dire tu vas le faire comme ci ou tu vas le faire comme ça, mais de petit à petit guider l'écrivain peut-être à modifier certaines choses dans le texte.
En fait, il vous guide. Par exemple, il dit là, c'est. Alors, il peut dire c'est trop long. Là, je m'ennuie. Ça, c'est plus simple. Il peut dire là, ça va trop vite. Au contraire, il faut s'attarder un peu. Mais il peut dire aussi, il peut donner des super idées. Il peut dire par exemple. Pourquoi là, on ne pourrait pas comparer ça et ça? Pourquoi là, si vous voulez dire le chagrin ou la joie, vous imaginez pas une scène, je vous dis n'importe quoi, là, là et là. Donc, on est libre, nous, auteurs, de garder ou d'écarter. Mais c'est des idées. En fait, c'est vraiment une discussion et un échange. Mais ça veut dire que l'éditeur, il est rentré dans votre tête. Il est dans votre tête et dans votre univers. Et en même temps, il est très à l'extérieur pour pouvoir avoir une vue d'ensemble. C'est pour ça que c'est un beau métier. Mmh.
Oui. Et du coup, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez que les écrivains avaient d'autres métiers en parallèle donc d'écrire. Vous, est-ce que vous en avez un autre? Et si oui, lequel?
Alors, il y a, cela dit, pas tous. Hein, moi, mon autre métier, c'est d'être éditrice justement. Donc, je fais faire des livres à des gens. J'en écris moi et j'en chronique à la radio. Donc, en fait, ma vie, c'est le livre. Mais je suis par ailleurs, je suis éditrice. Mais je suis pas éditrice. Je suis éditrice en non-fiction. Ça veut dire que ça, c'est mon passé de journaliste qui m'aide, mais j'édite tout ce qui est pas roman. Donc, c'est des enquêtes, des mémoires, une autobiographie, ça peut être un livre de recettes de cuisine, tout ce qui est pas roman. Et donc ça c'est vraiment intéressant.
Vous avez dit, pardon Clara, tout à l'heure qu'il y avait un socle autobiographique à ce livre. Est-ce que, au moment de la publication du livre, de l'écriture, vous aviez des précautions, des craintes par rapport à la réception éventuelle de la famille, des proches? Est-ce que ça, vous pouvez peut-être en dire un mot? C'est des choses qui passent par la tête des auteurs.
Ah bah
c'est
oui,
une responsabilité de publier un livre, bien sûr.
Alors, moi, j'avais prévenu mes frères et sœurs et mes parents que je faisais un livre autour de ça. Et ils ont dit ok. Alors ils sont très respectueux, donc ça j'ai beaucoup de chance. Hein. Ils sont très très respectueux de mon travail entre guillemets artistique. Donc ils étaient assez curieux de savoir ce que ça donnerait, un peu méfiants aussi. Et je leur ai fait lire avant parution parce que je voulais pas qu'ils soient mis devant le fait accompli. Ça c'était pas possible. Je leur ai dit. Vous lisez le texte, si vraiment il y a des choses qui vous heurtent, parce qu'il y a quand même plein de choses inventées, hein. Ça s'appelle un roman. La fratrie, c'est pas la même du tout, la grand-mère, elle n'existe pas. Enfin, j'ai quand même, il y a une œuvre de romancier hein, derrière, quand même. Mais bon, il y a quand même un socle basique, enfin, de base partagé. Et donc, je leur ai dit, si vraiment quelque chose vous heurte, je pourrais peut-être le reprendre ou le changer, mais globalement, c'est quand même ma démarche d'écrivain, et l'idée, c'est pas que... L'idée, c'est que je le fasse comme je le sens, en fait. Et donc, ils l'ont lu et ils étaient très touchés. Là où j'ai de la chance, c'est que comme ce sont des scientifiques, ils sont très curieux et, devant un acte littéraire, parce que ce n'est pas du tout leur rayon. Donc, ils étaient capables de dépasser ce qu'ils ressentaient pour poser la question de « comment t'as fait ?» Là, ça, je reconnais telle scène, je me souviens, mais comment t'as fait pour que ça passe de ça à ça dans le livre ? Et donc, il y avait un tel intérêt sincère que du coup, c'était des vraies discussions intéressantes. Mais j'ai beaucoup de chance. Hein.
Oui, puis je pense qu'il y a beaucoup d'émotions quand même aussi, puisqu'il y a notamment des scènes entre l'aîné et l'enfant qui sont bouleversantes, qui amènent une vision d'une relation... d'une intensité...
Ouais, mais je vais vous dire, la vérité est que, et ça, ils l'ont compris tout de suite, ils m'ont dit, en fait, c'est pas un livre sur nous, c'est un autoportrait que t'as fait en trois parties. Et ils ont raison. Donc, en fait, aucun des quatre enfants dans ma famille n'est vraiment que l'aîné, ou que la cadette, ou que le dernier, et encore, il y en a un que j'ai pas mis. Donc, la littérature, elle est très pratique vis-à-vis de la vie, parce qu'on peut compartimenter. Mais dans la vraie vie, tout est mélangé. Moi, c'est là où ils ont raison sur l'autoportrait, c'est que moi, vis-à-vis de ce petit frère, je m'en suis beaucoup occupée, j'en ai voulu, et j'ai eu ce côté un peu philosophique de l'enfant, le petit dernier, qui est un peu l'enfant qui est un peu qui cicatrise. Donc en fait, mes frères et sœurs vous diraient la même chose. Je m'en suis beaucoup occupée, je lui en ai voulu, et on avait quand même un œil sur les parents. Donc en fait, vous voyez, je pense que c'est très universel en vérité.
Oui, juste récupérer le micro, merci.
Juste pour savoir, est-ce que vous êtes quelle place dans votre fratrie et quel lien vous avez avec vos frères et sœurs ?
Très proches, ce sont des gens que moi j'estime beaucoup et que je trouve très courageux. Et en fait, on a fait comme tout le monde, hein, on a fait avec l'enfant qu'on a adoré, qui était notre frère. Enfin, en fait, la question ne se pose même pas. Il était là, et après, il n'était plus là parce qu'on le savait aussi qu'il n'allait pas vivre très longtemps. Mais c'était. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, c'est la vie, quoi. Après, on a eu la chance d'avoir des parents qui étaient ensemble, qui étaient solides. Évidemment que ça joue. Mais je n'arrive pas à en faire un mauvais souvenir. C'est quelque chose qui m'a tellement apporté. C'est pour ça que je ne comprends pas que notre société ne fasse pas plus de place aux enfants ou aux personnes en théorie diminuées, alors qu'en fait, elles sont capables de maximaliser nos caractères. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'était tellement le cas, on s'adaptait, quoi, on s'adaptait. Donc il y avait la poussette, il y avait tout ça, bah oui, c'est comme ça, voilà, on fait...
Oui, puis vous disiez qu'on était d'un lieu, mais on est de l'enfance aussi, et malgré tout une enfance où ces enjeux-là sont à l'œuvre dès le petit âge. fait sans doute de vous des adultes qui regardaient le monde de manière... vous désormais, mais en tout cas des personnages.
Mais c'est évident que quand vous avez grandi avec une expérience pareille, c'est forcément une richesse parce que vous grandissez beaucoup plus tolérant, beaucoup plus ouvert à la différence. Enfin, ça ne vous choque pas du tout, en fait. Et même les sentiments négatifs que vous avez pu ressentir, parce qu'il y en a, à un moment, la cadette... Elle n'invite pas de copine le mercredi après-midi parce qu'elle a honte de montrer son frère. Elle a honte d'avoir honte. Mais même ça, d'avoir ressenti ça et devenue plus grande, de pouvoir l'analyser, ça la rend beaucoup plus forte que les autres. Parce qu'elle voit tout à fait par où elle est passée, parce que c'est une capacité de réflexion, parce qu'on est un peu moins con au contact de la différence, quoi.
Il reste quelques minutes. N'hésitez pas à prendre la parole, à reposer des questions. Allez-y. Oui.
Est-ce que écrire ce livre, c'était un peu une façon de faire votre deuil ou pas du tout ?
Non, je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'on n'écrit pas pour faire son deuil. Ou dans ces cas-là, vous écrirez un mauvais roman. Et on n'écrit pas non plus... je parle de roman, hein. L'écriture thérapie, l'écriture du roman, hein, pas de journal intime ou pas des ateliers d'écriture, c'est autre chose. Mais l'objet même du roman ne peut pas être une thérapie. Je pense que c'est l'inverse. C'est précisément parce que vous avez fait votre deuil que vous pouvez du coup écrire un livre. C'est parce que ça c'est fait que du coup vous pouvez passer à quelque chose de créatif. Mais si vous misez sur l'écriture pour faire votre deuil, ça, un, ça ne marchera pas et deux, ça donnera un mauvais livre.
N'envisagez pas du tout la littérature comme un lieu de consolation.
Si, mais consoler, c'est pas faire son deuil. Si, au contraire. Je pense que la littérature, c'est exactement comme les animaux. Ce sont des créatures consolantes. Mais consoler n'est pas faire son deuil. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, dans ce livre-là, j'essaie de montrer que ce sont des frères et sœurs qui ont perdu quelqu'un. Parce qu'il meurt, l'enfant, quand même. Et bien, ça aussi, ça vient du Moyen-Âge, mais... Il y a une différence entre vivre sans quelqu'un et vivre avec l'absence de quelqu'un. Ce n'est pas du tout pareil. Et donc, de vivre avec quelqu'un qui n'est plus là, mais quand même, il est encore un peu avec vous, et ben, c'est quelque chose, moi, qui ne me choque pas. Et je pense que l'oubli est une deuxième mort et que, ben, on avance tous avec nos fantômes, avec des gens qu'on a perdus et qu'on aimait. Et il s'agit d'essayer de les voir, ben, plus comme des amis... à côté de nous, quoi. Vous voyez, mais il y a une différence entre vivre sans quelqu'un et vivre avec l'absence de quelqu'un. Et les frères et sœurs, là, tous les trois, ils ont compris et ils vivent avec l'absence du petit frère. Et finalement, bah, c'est aussi une façon de s'adapter. C'est-à-dire, qui sommes-nous pour juger l'idée, c'est quand même, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et bah, eux, si c'est leur façon de faire, c'est comme quand l'aîné ne met pas ses lunettes pour pas voir l'enfant et il plisse les yeux pour le voir quand même. Ben voilà, il s'adapte. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a.
Y a-t-il encore une ou deux questions ? Oui. Juste là, si vous voulez bien lever la main, s'il vous plaît, pour qu'on voit pour le micro. Voilà, de l'autre côté.
Oui. On voit que vous avez une écriture très poétique quand vous décrivez, par exemple, la rivière, la montagne et tout ça. Est-ce que c'est votre style d'écriture ou c'est spécifique à ce livre ?
Non, alors beaucoup de, enfin, les gens qui ont lu mes livres avant sur le Moyen-Âge m'ont dit que c'était exactement la même chose. Et il n'y a pas longtemps, j'étais dans une librairie à Blois et la libraire, elle fait quelque chose qui est très perturbant. À la fin de la rencontre, elle nous dit à l'écrivain qu'elle a invité, mais elle le fait avec tous ceux qu'elle invite, elle leur dit j'ai pris 10 phrases dans vos précédents livres. Je vais vous les lire et vous allez me dire de quel livre la phrase est sortie. Eh bien, j'en ai trouvé une. C'est-à-dire qu'en fait, elle lisait des phrases et je lui disais, mais ça, c'est s'adapter. Elle me disait, non, pas du tout. Elle me disait, c'est la révolte qui est sur le Moyen-Âge. Et en fait, vous vous dites, mais en fait, c'est le même livre que j'écris à chaque fois. Donc, je pense qu'on écrit toujours le même livre. Ça, j'en suis sûre. Et en fait, en effet, elle me citait des phrases de la nature et c'était vraiment... elle semblait tirée de s'adapter alors qu'en fait c'était mes autres livres, donc j'en déduis que j'ai vraiment la même façon de décrire la nature depuis le début.
Et peut-être sur l'écriture, puisque effectivement, et c'est une très bonne remarque, sur l'écriture de la nature, le lexique, etc., on peut rapprocher aussi d'une écriture, et notamment de cette première phrase, du terme d'inadapté, assez, entre guillemets, simple, ou en tout cas, c'est du relief aussi, c'est du contraste dans l'écriture. Vous avez l'impression d'avoir travaillé ces deux dimensions.
Alors, attendez, laquelle
une écriture laquelle peut-être plus poétique, sur le rapport à la nature, etc., et en même temps, une écriture... peut-être plus simple, en tout cas plus factuel sur un certain nombre de points. Cette première phrase, c'est une entrée en matière qui se veut très à plat, j'ai envie de dire. Ou très,
oui, mais en même temps, vous voyez qu'elle a la scansion du conte. Parce qu'un jour, dans une famille est né un enfant inadapté, c'est vraiment calqué sur « il était une fois un château, ta-ta-ta-ta-ta-ta ». On est vraiment dans le conte. Après, je pense que la poésie, je suis contente que vous ayez dit le terme poétique, parce que je pense que la poésie, elle permet de tout dire, en fait. C'est comme l'humour. On peut tout dire avec la poésie. Si vous avez le sens de l'humour, vous êtes sauvé. Vous ne pourrez pas être bête. C'est quand même très précieux. Et si vous avez un peu de sens poétique, pareil. Donc, cultivez les deux.
Ça se termine d'ailleurs le livre par une formule qui met aussi comme ça une dimension d'humour, presque de dérision. Enfin,
oui, et puis surtout, je voulais absolument que ça se termine sur un sourire des parents. Ça, c'était important. Parce que, somme toute, ils ont gagné. Enfin, ils ont fait comme ils avaient pu, quoi. Et ils ont fait. Ils se sont adaptés.
Joli travail.
Voilà, c'est ça.
Bien, mais écoutez, on va bientôt aller vers la fin de la rencontre. Peut-être encore une ou deux questions pour terminer cette discussion avec Clara. Qui est-ce qui veut clore cette séance? Oui. On te donne le micro.
Combien de temps par nuit avez-vous consacré à l'écriture de S'adapter?
Combien de temps par nuit?
Oui.
Et ben, quand ça avançait bien, c'était 4-5 heures de travail. Et quand ça avançait pas, c'était 20 minutes. Mais vous vous couchez, vous ne dormez pas bien, quoi. Ça tourne dans la tête. Dans ces cas-là, il ne faut pas s'acharner. Il faut laisser poser. Et vous le reprendrez dans une semaine. En fait, l'idée, c'est que vous n'avez pas de délai. Ça, c'est très, très agréable. Moi, je savais que si je devais passer 10 ans à faire ce texte, je passerais 10 ans. C'est pas grave. Personne ne m'a mis un pistolet sur la tempe pour me dire qu'il faut le rendre à telle heure et tel jour. Donc, il faut laisser faire les choses aussi, des fois. Et donc, je laissais faire.
Oui, vas-y, et puis ensuite au fond, là-bas.
Est-ce que quand vous écrivez un livre, vu que vous travaillez la nuit, bon, ça sort quand vous écrivez la nuit, vous écrivez, et pendant la journée, est-ce que ça vient, il y a encore, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez, par exemple, pour prendre des notes,
oui,
pour écrire toute
je la prends journée? Des notes. Je ouais. prends des notes et des fois, ça arrive un peu... ou alors, il m'arrive parfois de... Quand je, encore une fois, l'écriture est liée à la lecture. Quand je lis quelque chose et que ça m'épate, j'adore me dire, mais comment il ou elle a fait? Donc de prendre le passage et de me dire mais comment ou alors à l'inverse quand je trouve ça raté je me dis bon, bah, pourquoi là ça marche pas, donc à chaque fois ça m'apprend sur comment je peux faire ou pas faire.
Oui, encore.
Comment vous faites lorsque vous devez écrire un livre mais que vous en avez ras-le-bol?
Tu veux dire quand j'écris le texte et que j'en ai ras-le-bol du texte?
Non, c'est-à-dire que l'écriture, elle devient trop longue.
Alors, c'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je suis en train d'écrire et je ne suis pas satisfaite de ce que j'écris, c'est ça?
Oui.
Oui, ou peut-être
puisque
que
vous avez
que
plus
j'ai
de motivation.
Entendu...
Ah, ouais. Ben ça, alors, oui, mais c'est intéressant comme question parce que moi, il m'est arrivé d'en vouloir au texte où à un moment, ça ne vient tellement pas, où je trouve ça tellement mauvais que, en fait, j'arrive pas à voir les personnages, j'ai l'impression qu'ils ne me donnent rien, je ne sais pas comment ils vont réagir. Dans ces cas-là, c'est pas grave. Encore une fois, je laisse poser, je vis, et je verrai bien si ça revient. Il faut pas se mettre de pression. Donc, je laisse revenir. Et des fois, je me dis, peut-être qu'en fait, c'était une mauvaise idée. Avant S'adapter, avant les trois points de vue du frère, des sœurs et des pierres, il y a deux versions avant. Hein. La première version que j'ai faite, c'est les pierres sont beaucoup plus présentes, et elles parlent, on n'entend qu'elles. Et ben, tu vois, j'ai fait 60 pages et puis je me suis arrêtée parce que je me suis dit c'est nul. C'est pas grave. D'accord. Et j'ai laissé poser 4 mois
Et j'ai repris 4 mois après.
Donc ça fait que vous n'êtes jamais forcé à écrire.
Voilà.
D'accord.
Exactement.
Merci.
Dernière petite question, on va se tourner un peu vers l'avenir. Est-ce que vous avez un nouveau projet qui est peut-être en cours d'écriture, qui a peut-être déjà commencé ou peut-être qui est en train d'immerger ?
Alors, j'ai un début de projet, mais ce ne sera pas un roman, parce que là, en fait, je suis tellement pleine, entre guillemets, de s'adapter qu'il y a, c'est comme... c'est un peu une histoire d'amour qu'on a avec un sujet. En fait, quand vous avez le cœur plein à ras-bord d'un sujet ou d'un livre, il n'y a pas de place pour un autre sujet ou un autre livre. En revanche, comme ça va faire 8 mois que je suis en tournée et que je vois comment les choses qui se passent, je me dis que je vais peut-être faire un livre qui s'appellerait La vraie vie des écrivains, avec tout ce qui nous arrive à nous écrivains dont les gens n'ont aucune idée. Mais je vous donne un exemple. Récemment, il y a une de... c'est Cécile Coulon qui était là hier d'ailleurs, avec qui j'ai fait un spectacle, qui est une écrivain. Et elle était dans la ville, dans une ville. Elle arrive pour une rencontre en librairie. La libraire vient la chercher. Elle monte dans la voiture. On démarre la première, on roule. Et la libraire au volant lui dit « Ah, page 18 de votre livre, j'ai adoré, dadada, page 24, comment vous est venue l'idée, c'est fou et tout. » Et le portable de Cécile sonne et elle entend « Bonjour Cécile, je suis le libraire, je suis à la gare et je ne vous vois pas. » Mais non, mais c'est le début d'un film d'horreur. Hein. Et elle regarde la dame qui conduit.
Oh mon Dieu.
Et elle me dit, en plus elle est drôle, elle me dit « Mon sang, l'expression « le sang qui se glace », elle me dit « Je l'ai senti, je suis devenue froide de terreur de dedans. » Et elle regarde la dame et lui dit « Mais madame, vous êtes qui ?» Alors ça s'appelle un kidnapping hein, quand même. Hein.
Ouais.
Et la fille, complètement fêlée, quoi. La dame lui dit « Non, mais je suis fan. » Et en fait, les horaires de la rencontre en librairie ne correspondaient pas à mon planning. Donc, je suis là depuis 8h du matin à vous attendre à la gare, à vous guetter. Je vous attrape le temps que vous m'expliquiez pourquoi page 27, machin, pourquoi page 40, tatata, et je vous ramène à l'hôtel. Oh, et ben ça, c'est des trucs... ça nous arrive. Moi, on m'a déjà pris pour un auteur que je ne suis pas. Ça nous arrive souvent en fait, et bien sûr les cadeaux qu'on peut recevoir parfois hyper bizarres.
Ouais, c'est un vrai sujet de roman. Il y a quelques écrivains qui s'y sont essayés
un peu, ouais, mais là ce serait vraiment la tournée. Il nous arrive des... je sais pas si vous voyez qu'il y a un auteur qui s'appelle Michel Bussy, mais c'est un monsieur qui vend beaucoup, et à un moment il m'a dit il faut que tu fasses un chapitre les salons foireux. Alors je lui dis ah bon, c'est-à-dire, il me dit moi je suis allé à un salon et en fait c'est un peu artisanal, on arrive et on nous donne des cartons de livres et c'est à nous écrivains avec un cutter d'ouvrir le carton et de les poser sur les étals et de signer après. Bon, il me dit moi ça me fait marrer, il n'y a pas de souci et tout, et il arrive au salon donc, et comme il vend vraiment beaucoup, il y a 150 cartons de bouquins. Bon, alors il prend son cutter, il commence à ouvrir. Et quand il ouvre le carton, il voit les livres de Michel Bossy. Donc, il y a un gars qui s'appelle Michel Bossy. Lui, il s'appelle Bussy. Et il se dit, ils se sont trompés. Donc, il y a un gars qui s'appelle Michel Bossy qui a eu une commande en plus de 150 cartons de bouquins. Il n'a jamais vendu autant. Et Michel Bussy, il dit, je ne peux pas m'asseoir derrière. Je ne peux pas signer à sa place. Donc, il y a eu... Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, bon, j'ai passé le week-end avec des copains. C'était pas grave et tout. Mais ça nous arrive tout le temps. Donc c'est plutôt drôle.
Plutôt drôle, ouais. On attend le prochain livre avec impatience.
Voilà. Ce serait La vraie vie des écrivains. Bon, alors prenez pas l'idée, parce que là je viens de vous la vendre, mais...
vous pouvez, j'imagine, peut-être avoir un petit temps d'échange dédicace, peut-être si vous le souhaitez, avec Clara. Je ne sais pas si ça se passe ici ou sur le lieu de la librairie. Ça vous permettra peut-être de regarder un peu les livres, bien sûr, si les enseignants vous le permettent. Et puis d'acheter pourquoi pas un livre et d'aller à la lecture des romans. Voilà, mais on va remercier et applaudir Clara Dupont-Mono pour sa présence.